Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour à tous, bon dimanche. Ah, mes amis, vous savez à quel point je suis content d'aller faire le marché en votre compagnie le dimanche matin, surtout en automne, parce que l'automne, avec les premiers frimas, c'est un peu la saison de la bonne cuisine. Et la bonne cuisine, il n'en manque pas en ce moment, et des événements autour de la gastronomie. Tenez, par exemple, il y a quelques jours se tenait une soirée absolument exceptionnelle, la soirée des 25 ans du Guide Vert de la Revue du Vin de France. Vous savez, ce Guide Vert qui, chaque année, vous donne les bons domaines, les bons plans en matière de belles bouteilles. Alors là, on était dans le très haut niveau, puisque la Revue du Vin de France avait réuni à la Tour d'Argent à Paris les domaines qui ont 3 étoiles, c'est-à-dire le haut du panier, depuis 25 ans, depuis le début du Guide Vert. Et là, en matière de bouteilles, eh bien, on était reçu par le rédacteur en chef Denis Savreau, et vous allez voir, très haut niveau.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Denis Savreau, on est heureux d'être ici pour fêter les 25 ans de la Revue du Vin de France, du Guide Vert, comme on l'appelle, hein, le Guide Vert. Ce Guide Vert, c'est alors réuni à la fois un parterre d'amateurs de vin, bien entendu, mais surtout de professionnels incroyables, puisque là, vous avez une sorte de sélection des meilleurs, des plus grands vins des meilleurs vignobles.
Oui, le guide a été créé en 1996 je dois dire que ce soir, je discutais avec le directeur de la Tour d'Argent, Yannick Branchereau, qui me disait « Mais Denis, je n'ai jamais vu autant de grands vins et de grands vignerons réunis ici à la Tour d'Argent. »
Donc c'est incroyable quand on connaît la cave de la Tour d'Argent.
C'est exceptionnel. Donc voilà, alors c'est vrai que le Guide Vert a 25 ans il y a 25 ans, en 1996, lorsqu'il a été créé, il y avait 25 domaines 3 étoiles, et en réalité il y en a 23 qui ont gardé ces 3 étoiles pendant un quart de siècle, et donc nous les avons invités, ils sont tous ici, et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on voit le tableau, il y a par exemple beaucoup de Bordeaux, il y a presque la moitié de vins qui sont de Bordeaux. On voit qu'en 96 on voit le poids de Bordeaux, les plus grands Bordeaux, donc les premiers, certains seconds comme Léoville Lascaz, les premiers du Médoc, Mouton, Lafitte, Aubryon dans les Graves, bien sûr, la Tour, et Margaux qui est là aussi, et puis aussi la rive droite, Ozone, Cheval Blanc, et on voit, on peut mesurer le poids et la permanence de Bordeaux. C'est ça qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils étaient là il y a un quart de siècle, ils sont toujours là.
Et ils étaient déjà là en 1855, donc vous inscrivez dans la même lignée.
Ils étaient déjà là en 1855, mais on voit la force et la puissance de Bordeaux à une époque où en fait Bordeaux effectivement est critiqué, remis en cause, challengé, voilà. Donc c'est une des dimensions de cette soirée, incontestablement. Et puis il y a évidemment les légendes de toutes les autres régions. On a ici Dominique Lafond, on a le domaine de la Romanée-Conti, bien sûr, le domaine de Flèves. En Bourgogne, on a Ravenneau. On a aussi des domaines plus artisanaux. Hein. On a Ravenneau, voilà, on a en Alsace Zindumbrecht, merveilleux. Il y a deux 96 ce soir qui sont absolument éblouissants.
Chave, dans les Côtes-du-Rhône.
Chave, Jean-Louis Chave, la légende absolue qui est venue ici ce soir, qui m'a dit, voilà, Denis, vraiment cette soirée pour la revue, c'est très important, merci de l'organiser. Et il m'a dit, en plus, c'est à la Tour d'Argent. C'est vrai que la Tour d'Argent, le Guide Vert, la revue, la Tour d'Argent, ça fait un espèce de mixte. On vit une soirée absolument exceptionnelle. Et surtout, on rend hommage, la simple énumération de tous ces noms, les citer les vignerons, c'est la grandeur de la France, la grandeur de ses terroirs, tous ces vins font rêver, franchement, j'ai beaucoup d'émotions, on fait ça une fois tous les quarts de siècle, quoi,
Vous êtes heureux d'être là, hein.
Voilà, oui, c'est ça.
Alors, comme, ce qui est incroyable, c'est que...
Comme disait Thierry Roland, le jour de la Coupe du Monde en 98, maintenant qu'on a vu ça, on peut mourir, mais le plus tard possible.
Denis Savreau, on a le sentiment d'avoir ce parterre réuni avec des grandes quilles, comme on dit, hein, des grandes bouteilles et des grands vignerons. On a l'impression que vous avez accompagné pendant 25 ans avec ce guide vert les amateurs. Mais pas seulement, je crois que les domaines ont été accompagnés aussi, c'est comme ça qu'ils le ressentent ?
Oui, bien sûr, on essaye de mettre en avant... La revue, en réalité, a deux lignes, à la fois depuis la revue qui a été créée en 1927, qui est le plus ancien magazine de vin au monde. Hein. Vous savez que nos amis anglais ont créé le Decanter en 75, les Américains Wine Spectator en 76... Parker s'est lancé à la fin des années 70, la revue a été créée en 1927, donc c'est quelque chose de...
Bon. Il y a un petit passé, quoi.
Il y a un petit passé. Alors c'est vrai qu'on aurait pu être plus fort sur les différentes mondialisations. On a peut-être...
Un peu louvoyé.
On est resté un peu trop franco-français, sans doute. La France était bonne fille, pays producteur, pays consommateur. On est resté un magazine français, et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est-à-dire qu'on est capable de... Voilà, on goûte les grandes régions françaises, Bordeaux, la Bourgogne, la Champagne. Et puis, on s'intéresse aussi à des régions comme la Corse, le Languedoc, le Jura, la Savoie, aller dans des vignobles, le Muscadet, les vignobles du Massif central avec les vins de volcan. Donc, on a cette espèce d'éclectisme et on défend par-dessus tout la France et ses terroirs. C'est ça notre
sa diversité de vins.
Et sa diversité. Avec toujours deux idées fortes depuis toujours, la défense des vins de qualité et la défense de l'intérêt des consommateurs. C'est ça nos deux axes. Alors c'est vrai que les grands vins français, pour nos lecteurs, pour les consommateurs, il y a qui les connaissaient depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a eu, à partir des années, on va dire, de 90-2000, cette envolée des prix qui est aussi une source de frustration. Je pense que c'est ce qui a pénalisé Bordeaux, par exemple, avec une envolée des prix incroyable, mais... La mondialisation est passée par là.
C'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a de la demande, c'est normal que l'offre se resserre et qu'on monte les prix.
Voilà, alors c'est vrai que nos lecteurs, les médecins, les avocats, les professeurs des écoles qui connaissaient ces vins, qui les appréciaient, ils ont eu du mal à suivre les augmentations de prix. Quand on voit que certains grands crus bordelais, alors bourguignon aussi, mais produits en plus petite quantité, se vendent au-delà de 500, 600, 700 euros, 1000 euros, les Français décrochent, quoi. Et en même temps, ça reste de très grands vins. Donc il faut continuer à en parler parce que le monde entier maintenant les vénère et les admire. Et en même temps, on doit proposer aussi, être toujours à l'affût de vins qui restent accessibles, parce que la France est quand même le pays du vin. On doit continuer à boire du vin et aussi trouver ce qui fait plaisir, ce que nos lecteurs recherchent, c'est de faire des découvertes. Donc c'est vrai qu'il y a des régions, aujourd'hui, c'est plus facile de faire des découvertes dans la Loire, notamment dans la galaxie des vins naturels, etc., dans le Languedoc. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, alors attention, parce que y a certains coins de Bordeaux, l'entre-deux-mers, les côtes, où il se passe des choses très intéressantes, mais où les hiérarchies sont plus figées, on est dans cette espèce de maelstrom mondial.
Mais vous tenez le cap.
Mais on tient le cap et on est tellement fiers de réunir tous ces immenses vignerons, ces immenses vins ce soir pour cette soirée exceptionnelle.
Pour la fête.
Pour la fête, voilà.
Olivier Poussier, 25 ans de la RVF, certes, mais surtout un retour en arrière ici à la Tour d'Argent.
Effectivement, fin d'école hôtelière, je suis rentré ici pour le 4 centenaire de la Tour d'Argent avec M. André Terrail, le Claude Terrail, le père d'André, ici présent. Et c'est toujours un grand moment d'émotion de venir à la Tour. Et à l'époque, Dominique Boucher était le chef en cuisine, on avait 3 étoiles Michelin, et j'ai travaillé effectivement de 80...
Avant d'aller au crayon.
Voilà, de 82 à 86. Et voilà, et après je suis parti en Angleterre. Donc c'est toujours un grand moment d'être ici.
Alors, ce qui nous réunit ce soir, évidemment c'est l'amour du vin. Olivier Poussier, c'est quoi 25 ans de RVF, la Revue du Vin de France ?
C'est exceptionnel. Je pense que tous ces vignerons qui sont ici présents, et tous les gens et tous les domaines qui sont ici présents, maintenir, parce que ce qu'il faut savoir au niveau du guide vert de la Revue des Vins de France, c'est que on a l'obligation de changer de région tous les 6 ans.
Donc, il y a un turnover, quoi.
Voilà. et pour éviter des...
La collusion.
Voilà. Donc à partir de là, si vous voulez, que fait que depuis 25 ans, tous les vignerons qui sont ici présents à tous les domaines, les dégustateurs ont changé, mais les domaines sont restés à leur niveau et ont été fidélisés par des dégustateurs qui sont différents des uns des autres, montre que le domaine est vraiment dans une constance et dans une régularité tout à fait exceptionnelle. J'aimerais dire aussi que moi je suis rentré à l'époque du Guide Vert de la Revue de France en 98, je suis un des plus anciens aujourd'hui, et ce qui est formidable, si vous voulez, c'est qu'on a la totale liberté d'expression et de dire ce qu'on pense par rapport à ce guide, de faire à la fois rentrer et sortir, et ça c'est vraiment très important. Très important, c'est parce que ce liberté de penser, elle a un rôle essentiel aussi dans le côté, dans la vérité de ce que le Guide Vert peut dire, quelque part.
Est-ce que c'est facile, justement, lorsqu'on travaille dans le monde du vin, lorsqu'on côtoie les vignerons, les propriétaires de domaines, de rester objectif après tout ce temps ?
Je pense qu'il le faut. Je pense que de temps en temps, il ne faut pas toujours faire plaisir. Quand un millésime est pas très bien fait. De toute façon, le vigneron, vous savez, un vigneron qui vous connaît depuis longtemps, il le sait. Hein. Quand vous discutez avec lui, vous lui dites, ah, ça c'est... Alors, chaque millésime, bien sûr, a son identité, a ses problématiques, et donc a des styles qui sont différents, et Dieu sait que c'est normal que l'Europe et la France viticole, l'identité d'un millésime veut dire quelque chose. Mais cependant, il ne faut pas avoir peur de dire aussi à des gens, des fois, et à des domaines, de façon courtoise, que, bah, voilà, la lecture du millésime et l'appréciation du millésime est différente de ce qu'on pourrait penser. Mais bon, voilà.
Olivier Poussier, vous avez été meilleur sommelier du monde, un des meilleurs sommeliers du monde, comme on dirait les meilleurs ouvriers de France. Aujourd'hui, où est la place de la viticulture française? Où est la place du vin français dans le monde?
Je crois qu'elle est toujours très grande. Moi qui ai la chance de faire pas mal d'événements en France et à l'étranger, et puis de voir aussi... ce que les vignerons étrangers peuvent consommer de façon courante à table et chez eux, dans leur cave personnelle, on voit bien que le vignoble français reste quand même un modèle.
Et la référence ?
Oui, quelque part oui. Quelque part oui. On a un pays qui a une chance énorme. On a une grande diversité variétale. On a un pays climatiquement qui est assez homogène, même si effectivement l'opposition entre la France du Nord et la France du Sud sur des climatologies différentes et des encépagements différents, mais on a cette chance d'avoir une diversité variétale qui est énorme, qui est au service du pays, comme beaucoup de pays d'Europe, mais la France reste quand même un modèle de viticulture et surtout un modèle de vin et d'équilibre de vin.
Sud Radio, 10h-11h, Vergnaud fait le marché.
Allez, on quitte Olivier Poussier, on quitte cette soirée des 25 ans de la RVF, le temps de se remettre un peu de tout ce talent, et on revient dans 2 minutes pour continuer la dégustation.
Sud Radio, 10h-11h, Vergnaud fait le marché.
Allez, je retourne, je n'y manque pas à cette soirée du 25e anniversaire du Guide Vert de la Revue du Vin de France. Il y avait de nombreux vignerons, mais pas seulement, aussi des amateurs et certains que vous connaissez bien.
Sud Radio, Vergnaud fait le marché.
Pierre Arditi, homme de goût. Homme de goût et incarnation du vin à la télévision française. Et je vous vois avec un verre de Château Latour. Vous choisissez bien.
Oui, bah, je ne peux pas passer devant Château Latour et ne pas en boire. Ou alors je serais vraiment très trabégou. Non, non, ça c'est pas possible.
C'est un millésime 96 qui célèbre les 25 ans de la Revue du Vin de France, du Guide.
Exactement, exactement. Auquel d'ailleurs je suis abonné, même si j'écris dans un guide dit concurrent. Mais en fait, ils se complètent très bien. L'idéal, c'est de lire les deux. Ils sont excellents, et l'un et l'autre.
Ce Guide Vert, vous l'avez suivi depuis longtemps, comme nous tous. Il vous a aidé dans vos achats, ah
oui.
Dans vos goûts?
Ah oui, oui, bien. Oui, oui, parce qu'il y a, bon, vous pouvez acheter les étiquettes. Moi, au début, j'ai dû faire comme tout le monde. Maintenant, ça va, les étiquettes, je les connais, j'achète plus d'étiquettes. J'achète tout d'un coup soit des choses que je ne connais pas et que les gens que j'estime me disent tu devrais boire ça. Si tu bois ça, tu es un arriéré. Si tu ne bois pas, tu es un arriéré. Bon, alors je bois. Après, j'aime ou j'aime pas et on se fout sur la gueule, mais c'est pas grave. Et donc, je préfère évidemment découvrir les choses et de temps en temps, quand même, reboire des chefs-d'œuvre comme celui-là. Parce que c'est éternel, ça. Si vous voulez, quoi de neuf Molière, quoi de neuf Château Latour, Château Ozone, je sais pas, vous voyez, bon, c'est...
Vous êtes plutôt Bordeaux, Bourgogne, Côte-du-Rhône, en rouge?
Je suis vin. J'en ai marre du Bordeaux bashing, ça m'exaspère. Il n'y a aucune espèce de raison de vilipender le Bordeaux. Évidemment, j'adore le Bourgogne, évidemment, j'adore la vallée du Rhône, évidemment, j'adore les vins d'Alsace dont on ne parle jamais assez. Alors, avec une petite préférence en ce qui me concerne pour les blancs d'Alsace, qui sont magnifiques. Enfin, on n'en parle jamais assez. Puis il y en a plein d'autres, les vins de Loire. C'est merveilleux. J'aime le vin. Alors après, un coup, je préfère être sur des blancs, un coup, je préfère être sur des rouges. Et puis comme ça, je roule sous la table et puis c'est parfait. Je fais tout ce qui est politiquement incorrect et je le revendique.
Pierre Lurton, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce guide vert de la Revue du Vin de France ?
25 ans d'excellence, 25 ans de ma vie, 25 ans de commentaires plein d'intégrité. C'est plein de souvenirs de journalistes que j'aime, mais plein de souvenirs de 25 ans déjà. Ça faisait juste 5 ans que j'étais à Cheval Blanc, finalement, et j'étais pas encore à IKEM. Et donc, cette revue du vin de France, ce guide, ça a été pour nous important. Alors nous, on a fait une gaffe terrible. On a porté aujourd'hui en magnum le seul millésime qui n'a pas eu 3 étoiles 2011. Je ne l'ai pas fait exprès.
Bien joué. C'est un petit retour de flamme.
Non, on n'a pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu l'air de dire, mais vous avez vu comme il a bien progressé. Ouais. Le cheval galopant, emmené par son cabernet franc. Non, mais c'est vrai. Non, c'est... Et puis en plus, aujourd'hui, cet anniversaire avec tous ces châteaux, tous ces amis, je me suis rendu compte que pour moi, ouais, 25, c'est beaucoup.
Jean-François Pierce, qu'est-ce que vous allez goûter là ?
Un magnum de Chablis, du domaine Ravenot et Valmur, je crois, c'est ça ?
Un Valmur, un grand cru.
Bravo, je vois que vous connaissez bien vos classiques.
Alors, vous êtes... Vous louvoyez entre blanc et rouge ou est-ce que vous avez une ligne directrice là ?
Non, c'est le vent qui me porte et mes envies. Non, parce que j'ai goûté Cheval Blanc 2011, j'ai goûté le 2016 de chez Jean-Louis Chave qui était absolument formidable, et arrivé à Chablis avec ce domaine qui est un domaine dingue comme le domaine Ravenot, bon, je vais chez les gens que j'aime en fait.
Mais... Jean-François, lorsqu'on est un grand chef et qu'on a des belles caves, hein, parce que toute votre carrière, vous avez fait attention aux caves, est-ce qu'on arrive à être encore étonné, bouleversé, alors que vous goûtez certainement des grands vins assez souvent ?
Alors, c'est quoi un grand vin ? C'est pas un vin qui coûte cher, c'est un vin qui est fait avec âme et avec amour pour faire plaisir aux autres. C'est ce qu'on peut reconnaître dans ce Chablis Valmur 2010. Et je pense que c'est l'une phase du triptyque nécessaire pour prendre beaucoup de plaisir à table. Des gens qu'on aime, une bonne cuisine et un grand vin, et le bonheur est là.
Jean-François, pour autant, ici, c'est la célébration de 25 ans d'une certaine pérennité, d'une certaine gastronomie du vin, en quelque sorte.
Une pérennité dans la qualité, dans l'émotion, et c'est ça qui compte, en fait. Parce qu'un grand vin, c'est quoi ? C'est un vin qu'on peut boire assez rapidement, et puis c'est un vin qu'on peut oublier, et c'est un vin qui va provoquer de l'émotion. C'est un vin dont on se souvient. Je crois qu'ils sont tous là.
Alors vous êtes reconnu comme étant un des chefs qui fait attention, oui. Je dirais, au pairing, ce qu'on appelle le pairing en anglais, qui est le mariage des mets et des vins. On a eu tous un homme auquel je pense aujourd'hui, qui a été Alain Saint-Drins, qui a été un peu l'initiateur de ce mariage.
Moi, j'ai une anecdote.
Oui.
En 88 ou 9, je viens me présenter au Crillon, voir Christian Constant pour qu'il m'embauche. Je fais mon petit rendez-vous avec mon petit costume, comme ce soir, en sortant du Crillon, j'étais monté en TGV de Valence. Je suis allé manger chez Saint-Drins, et c'était un prix assez onéreux à l'époque. Je me souviens, j'ai mangé un canard apicius avec une Saint-Jacques à la carotte.
Vous pouvez nous dire ce que c'est le canard apicius ?
C'est l'un des plats signatures d'Alain Saint-Drins, qui est un canard aux épices, issu d'une recette qu'il a réinterprétée des 10 livres d'apicius. Et je me souviens que, n'ayant pas pris de vin parce que c'était un peu onéreux, ils m'avaient servi. Ils avaient compris que j'étais tout seul à table.
Ouais. Jeune.
Et jeune. Que j'étais quelqu'un de la profession. Ils m'avaient servi un petit peu de mori. Et j'avais trouvé ce mariage exceptionnel. Et j'ai compris ce jour-là que le vin ferait toujours partie de ma vie de restaurateur.
Bertrand Villaine, je viens de goûter un Échezo du domaine de la Romanée-Conti 2010, millésime incroyable.
Millésime assez incroyable et surtout, j'aurais tendance à dire inattendu à ce niveau-là. C'est une grande surprise. En fait, c'est un vin qu'on a redécouvert il y a très peu de temps Et quand s'est posé la question de savoir quel vin on pourrait partager ce soir, en fait, on a été agréablement surpris de la qualité, de l'élégance de ce vin, issu d'un millésime qui ne nous avait pas forcément donné espoir en son temps. Et en fait, et ben voilà, le miracle bourguignon vient souvent du vent du nord, mais il vient aussi parfois du temps, de laisser le temps au vin à se former, s'arrondir, se préparer pour être dégusté aujourd'hui, 11 ans après, sur un vin très délicat, très élégant, pas forcément excessivement de puissance de tanin, mais puissance de finesse, très fruité. Et qu'en avez-vous pensé, vous, du coup, alors, justement, parce que
moi, je suis bouleversé parce que j'adore le Pinot, mais surtout, je me dis à chaque fois que je goûte les vins de chez vous, c'est quoi le secret du domaine de la Romanée-Conti ?
Alors, je crois que le secret, c'est d'avoir compris, si tant est qu'il y a un secret, c'est d'avoir compris que nous étions là pour faire quelque chose, pour passer quelque chose, et pas pour manufacturer quelque chose. Donc en fait, depuis très longtemps, et aujourd'hui, les vins que l'on déguste, c'était chez eux, aujourd'hui, n'est que le fruit de 40, 50 ans, 60 ans de travail sur la qualité du matériel végétal, sur l'adaptation de ce matériel végétal à des lieux précis, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle, comme on le sait, de nos fameux climats. Dans le climat, il y a ce terroir qui existe. Et l'idée, c'est de trouver le meilleur moyen, en intervenant juste quand il faut, de laisser, en fait, ces caractéristiques propres à chaque espace être mis en avant, et se révéler par elle-même. Voilà, aujourd'hui, les Chézeaux est très souvent le vin le plus immédiat, en fait, de ceux que l'on peut proposer. Et je pense que sur ce millésime-là, on a véritablement, alors 10 ans après, effectivement, l'explication. Donc il faut savoir attendre. Et puis parfois, il faut savoir avoir le culot, entre guillemets, d'aller ouvrir une bouteille plus récente, parce que il ne faut pas forcément attendre les 10 ou 15 ans pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, faire simplement. Simplement, tout simplement.
Oui, simplement, ça paraît simple comme ça, mais enfin, c'est beaucoup d'exigences.
Oui, ça, l'exigence, évidemment. Exigence au niveau de la qualité des raisins. Mais ça, il y a une chose qui est simple dans toutes ces exigences-là, c'est que si il n'y a pas le raisin adéquat, il n'y aura pas le vin à la sortie.
Domaine de la Romanée-Conti sera là dans 25 ans pour les 50e anniversaire ?
Alors, si la RVF est là, oui. Certainement, j'espère. Et dans 25 ans, je pense être là aussi. Voilà. Mais oui, on c'est un petit peu à l'image de ce que l'on fait. C'est-à-dire que la fidélité, quelque chose qui paye, entre guillemets, le mot n'est pas bien choisi, mais la fidélité permet effectivement de prendre des risques ensemble et puis d'avancer ensemble. C'est-à-dire qu'on est de la génération, on répare les choses et puis on continue à avancer ensemble. Donc écoutez, je leur souhaite effectivement de pouvoir fêter dans 25 ans un anniversaire de plus, et je nous souhaite d'avoir la forme d'être là et de vous y retrouver d'ailleurs.
Avec grand plaisir.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Et j'ai pris mon ticket déjà pour dans 25 ans pour être dans la future, pour le 50e anniversaire du Guide Vert de la Revue du Vin de France. J'espère qu'on se régalera autant que cette fois-ci. Mes amis, ne vous sentez pas délaissés si vous n'avez jamais goûté les vins dont je vous ai parlé, parce que moi, beaucoup, c'était la première fois. Je vous souhaite qu'une fois dans votre vie, vous puissiez mettre le nez dans ces verres ou dans ces bouteilles pour au moins découvrir ce qui s'y trouve. Allez, on se quitte 2 minutes, le temps de nous remettre de tout ce talent et de toutes ces merveilles, et on continue l'émission.
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Allez, on replonge dans les grands événements. Il y a un peu plus d'un mois se tenait la finale du Bocuse d'Or, le plus grand concours de cuisine au monde, à Lyon, au Syrah. C'est un Français qui a gagné, ça ne vous a pas échappé, il s'appelle David Tissot. Eh bien, j'ai retrouvé David Tissot dans sa tournée de promotion, ou plutôt sa tournée de remerciement, parce qu'il se raconte encore, il nous raconte encore cette émotion qui est bien vivace.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
David Tissot, vainqueur du Bocuse d'Or 2021, il y a un mois et demi maintenant. Hein,
un mois et demi, oui, tout à fait.
Et la tournée continue. Là, on vient de déjeuner en compagnie de Paul Vranken, qui est un de vos sponsors, on peut dire. Et, hier soir, c'était la soirée qu'on peut qualifier de gala de la team Bocuse France. On est d'ailleurs avec Serge Gérald, président de la team Bocuse d'Or France. Bonjour Serge.
Bonjour.
Et on est aussi en compagnie de Johan Chapuis, qui a été votre coach, David. Bonjour Johan.
Bonjour tout le monde.
Alors, je dis la tournée continue parce qu'en fait, c'est un peu, le Barnum qui continue depuis le concours. Ça a été 2 ans vraiment concentré dans une bulle à préparer le concours. Et depuis maintenant, c'est la tournée de promotion en quelque sorte.
C'est un petit peu ça. C'est faire profiter un maximum de gens de cette victoire, de ce Bocuse d'Or, de promouvoir aussi la cuisine française, j'ai envie de dire, à l'international, à travers le monde. Et je pense que c'est important... De le faire quoi, il faut et en même temps c'est aussi de profiter avec toutes les équipes qui nous ont entourés, nos partenaires aussi qui nous ont entourés, soutenus. Voilà, là on est plus sur cette période là où on remercie un petit peu tout le partenaire et les équipes.
Oui, parce que je crois que personne ne se rend compte de l'avant Bocuse d'Or, de ce que vous avez passé comme temps. On peut comparer ça à la préparation des Jeux Olympiques pour un athlète, c'est-à-dire au fond rentrer dans une bulle de préparation, de travail technique, de répétition, de peaufinement.
Alors c'est tout à fait ça, c'est vraiment un travail de répétition, d'engagement, de tout, de remise en question, on remet tout à plat tous les jours, après avec des hauts et des bas, mais en gros c'est ça, et puis il faut être prêt sur tout le jour J, et puis pas le 26 mais le 27 quand vous devez passer,
Et quand vous dites prêt, ça veut dire aussi sur le plan physique, j'imagine, parce qu'il faut avoir bien dormi quand même la nuit d'avant, même si c'est difficile. Il faut être prêt physiquement, il faut pouvoir tenir l'épreuve, tenir le choc.
Bah, pour prendre un petit exemple, là on parlait de dormir, c'est vrai que pendant les 2 derniers mois, moi personnellement, toute l'équipe était un petit peu au même lot, où on se levait à 4h du matin pour être dans les conditions...
Voilà, du jour du concours.
Du jour du concours et avoir vraiment les meilleurs, la meilleure performance physique pour ce jour-là, quoi.
D'ailleurs, vous avez fait subir à toute l'équipe des entraînements qui ressemblaient aux vôtres, hein, course à pied, vélo, salle de sport.
De toute façon, il fallait faire qu'un. Hein. Donc, il fallait que l'équipe elle soit unie et. Et puis en même temps, c'est tous ces exercices-là, alors que ce soit sport, on faisait du yoga ou des choses comme ça, elles permettent aussi de révéler, alors déjà de se révéler aussi, mais aussi de trouver une cohésion d'équipe. Voilà, on ne fait pas ça pour non plus...
Faire les mêmes choses ensemble.
Voilà, c'est faire les choses ensemble, avancer ensemble. Et moi je me souviens quand on a commencé à faire les premiers footings où il y en a qui partaient devant non tu vas pas partir devant, tu vas attendre ceux qui sont avec toi et puis on va tous avancer ensemble. Voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut travailler pour encore une fois, parce que ça reste un concours pour moi d'équipe où tu représentes ton pays, la France, et il faut être unis à ce moment là et il faut être solidaire.
Alors en face de vous il y a Johan Chapuis, le coach. Alors le coach c'est quelqu'un qui en fait tient à la fois la montre, le calendrier, l'esprit d'équipe, quelqu'un qui a une vision un peu extérieure sur ce qui se passe. Est-ce qu'il vous a fait souffrir physiquement? Parce que Johan il est un peu comme moi, il est taillé un petit peu plus large que David Tissot. Est-ce que vous avez souffert physiquement?
Souffert oui, quand on a fait les entraînements sportifs oui, mais et j'en ai pas fait beaucoup. Non, on a souffert d'une façon très intéressante parce qu'il y a eu un temps de réflexion exceptionnel. Après, il y a eu un temps de travail. Et après, il y a eu un temps d'application du travail décidé. Et la force de Davy, c'était ça, avec Serge, beaucoup de communication. Et après, on a mis en application ce qui était décidé. Donc pour moi, c'était un rôle facile et compliqué. Facile, pourquoi? Parce que j'avais en face de moi quelqu'un d'extraordinaire qui avait une conviction et qui avait un peu la même conviction que moi sur le concours et sur le travail à appliquer et à faire. Se surpasser pour rester seulement bon, je le dis tout le temps, mais lui, c'est pas surpassé. Il a franchi un cap qui m'a montré que dans la cuisine, on pouvait franchir un cap. Et je l'en remercie parce qu'il m'a beaucoup ouvert les yeux sur plein de choses. Et après le jour J, ben, moi j'avais une grosse pression, c'était de tout ce qu'il avait décidé ou ce qu'on avait décidé ensemble, c'est que ça tienne dans ce temps qui était. J'avais ces chronomètres devant moi. Pourquoi ? Parce qu'on avait vraiment le temps. Il ne fallait pas prendre d'avance, surtout pas, et il ne fallait pas prendre de retard. Et il a toujours été le jour de concours avec Arthur dans un temps.
Régulier ?
Ouais, vraiment régulier. Même lui, il avait le temps. Et il savait, il avait le temps dans son couteau, dans sa main, dans ses casseroles. Et ça, c'était beau à voir.
Ah oui, parce que ça donne de la tranquillité de savoir qu'on n'est pas en retard tout le temps, qu'on ne court pas après l'horloge.
Exactement, mais par contre, on a vécu ces 7-8 heures entre la préparation, le temps de se mettre en place et de faire. Et j'ai l'impression que les 8 heures sont passées en 10 minutes. Alors, à un moment, j'étais même inquiet à ce moment-là parce que je n'ai pas vu passer le temps. Et on n'a pris que du plaisir, quoi.
Alors, ce qui est fantastique dans ce que vous racontez, c'est qu'on imagine tout le monde redémarrer à zéro, hein, le matin du concours. Mais je voudrais pas qu'on oublie que Davy, il est aussi chef étoilé à l'Institut Paul Bocuse, dont il était le chef au moment du concours. Vous, vous êtes chef étoilé à Tournu, en Bourgogne. Serge Vira, il a 2 étoiles au guide Michelin. Et d'ailleurs, Serge Vira, quand vous voyez ce qui s'est passé cette année au Bocuse d'Or, vous vivez un petit peu votre Bocuse d'Or dont vous avez été vainqueur en 2005. Est-ce que les choses ont beaucoup évolué dans la façon de se préparer, dans la façon de travailler ?
Oui, c'est évident que ça a évolué en 15 ans. C'est énorme la progression et le niveau. J'aimerais pas avoir à refaire le concours 15 ans plus tard, je te le dis. Mais c'est vrai que ça a évolué et puis on voit que toute la technique a bien progressé. Et après, évidemment, on vit une partie de notre aventure et on retrouve certaines émotions qu'on a vécues il y a 15 ans, mais ça c'est un moment, de toute façon quand on vit le Bocuse d'Or, on est marqué au fer rouge à vie et on en a les larmes, et moi encore 15 ans après, vous m'avez bien vu, j'ai encore les larmes après cette émotion, parce que c'est une aventure humaine, c'est des rencontres entre des gens, entre des personnes, hommes ou femmes, et qui sont d'une telle passion, d'une telle sérénité aussi à un moment, et c'est ce qui a fait la qualité de notre candidat. C'est que, tu sais, je venais souvent au refuge, comme nous on appelle ça le refuge. J'ai jamais vu le candidat douter. J'ai jamais vu le candidat inquiet.
Il a la tête froide, hein, David Tissot.
Mais c'en était même agaçant, parce qu'on s'est dit, mais quand est-ce qu'il va se réveiller,
quand est-ce qu'il va craquer?
Exactement. Et en fait, on avait, je crois, sélectionné le bon candidat, parce que il était rassurant pour lui et son équipe, et il était aussi rassurant pour son président et tous ceux qui composent la Team France. Et c'en était même devenu inquiétant de se dire, mais pourquoi dégager autant de sérénité alors qu'on n'est pas encore prêt? Et c'était ça qui était. Mais je crois que c'est une histoire de mental, et encore une fois, David l'a dit, c'est, je crois, quand on a un mental de conquérant, de compétiteur, on déverse comme ça une espèce de sérénité, de rassurance envers ses proches et tous ceux qui l'entouraient. Et c'est ce qui a fait, je crois, une partie de la réussite, ouais, bien évidemment.
Serge Gérard, vous êtes restaurateur, comme je le disais, en Auvergne, à Chaudzègue, hein, c'est vraiment la limite du Rouergue, hein, c'est le sud-sud de l'Auvergne. Comment c'est le Bocuse d'Or aujourd'hui ? C'est un souvenir, ou est-ce que le fait d'être président de la Team France vous rebaigne dedans tous les 2 ans et peut-être même plus souvent ?
Tu sais, moi j'ai été baigné très souvent dans le Bocuse d'Or, puisque avant de devenir président, j'étais déjà impliqué avec d'autres pays et d'autres équipes. J'ai eu la chance et j'ai fait en sorte de prendre cette présidence pour aussi insuffler un nouveau souffle et une autre organisation. Et bien évidemment, derrière la présidence, il n'y a pas que moi, il y a des gens extraordinaires qui font un travail, il y a des partenaires, il y a toute une organisation qui fait qu'on est là juste nous pour essayer de faciliter au maximum le travail du candidat. On ne veut pas vivre l'aventure à sa place, on veut qu'il vive son aventure, on veut qu'il vive ses émotions, qu'il crée ses plats, qu'il se prépare comme il le souhaite. Et en fait, on a juste un rôle de facilitateur quand c'est bien géré. Il faut que ça reste comme ça. Et surtout, si on peut s'éviter des conflits ou des problèmes, le candidat, il n'a pas besoin de ça. Et c'est bien pour ça qu'on essaye de soulager toute cette partie-là. Et on n'a qu'un rôle de facilitateur. Et je veux qu'on en reste là, parce que le candidat doit vivre son aventure.
Je vois Yohann Chapuis, il a encore les poils qui se dressent dans la nuque à entendre parler des vies de son concours. Vous êtes encore tellement dedans, quoi.
Oui, on est dedans. On ne pourra jamais l'oublier, parce que même avec la période du Covid, on a vécu un peu plus long. Mais moi, j'en suis certain, c'est grâce aussi à cette période qu'on a pu ce cercle de réflexion qui nous a fait du bien en revenant de l'Europe, en disant, Davy me dit dans l'avion, le lendemain matin, il me dit, j'ai compris. Ce qu'on avait dit, c'est vrai et il faut qu'on le fasse. Donc, on a travaillé là-dessus et l'aventure, mais je suis sûr qu'elle me servira pendant 10 ans. Elle me sert beaucoup aujourd'hui, mais je ne pourrai jamais oublier ce moment. C'est 18 mois qu'on a vécu tous ensemble.
David Tissot, le concours, il est aujourd'hui derrière. Monsieur Paul, en or, vous accompagne partout, hein, parce que vous le trimballez partout, la statuette. Hein.
Je l'emmène de partout, parce qu'on me demande... quand je la sors pas, on me dit, mais tu l'as pas, donc je la sors. Donc oui, je l'emmène de partout. Et puis c'est important de remonter les couleurs de la France à travers le monde, encore une fois à travers la France aussi, partager avec soit les amis restaurateurs, soit aussi des gens qui sont pas forcément moi je vois à Lyon, des fois je suis interpellé HF, puis des jeunes qui sont là, et voilà quoi, quand on voit toutes ces jeunesses qui nous connaissent pas à la base ou ça paraît inaccessible, qui sont là, on peut faire une photo, on y va, et puis voilà quoi, c'est un deuxième souffle avec monsieur Paul, et voilà, moi je suis content de me balader avec lui, j'adore.
Ouais, parce que il a commencé David Tissot chez monsieur Paul, hein, à l'auberge, comme disait Paul Bocuse lui-même, dans son restaurant Paul Bocuse, et vous l'avez ramené à Lyon. C'est une fierté pour tous les Lyonnais, mais aussi pour tous les Français, hein, parce qu'il traînait un petit peu à l'étranger quand même ce titre. C'est loin d'être fini, hein, même si le concours est derrière. Là, le calendrier est encore bien plein, bien plein, bien plein pour un bout de temps, non ?
Bah oui, de toute façon, il y a la sélection française là, pour le prochain candidat qui va représenter la France. Je pense que...
Le 23 novembre à Reims ?
Exactement. Je pense que c'est important qu'on les accompagne, hein, que le président aussi... commencer à travailler sur le centre d'excellence, tout ça, donc il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit soudés pour c'est pas parce qu'on a gagné qu'il va pas falloir se reposer des questions, au contraire je pense qu'il va falloir se poser des questions et trouver quelque chose encore de différent pour la prochaine fois, et surtout pas s'endormir sur cette victoire. Alors moi j'ai le droit d'en profiter et ça c'est vraiment important, mais faut vraiment se poser de nouvelles questions, parce que je sais que les autres pays se sont déjà attelés à décortiquer mon plateau et mes recettes. J'ai déjà eu quelques échos à ce sujet-là, donc voilà, non, il faut aller de l'avant, et il faut que les nouvelles générations maintenant elles croient en ce concours, et nous on sera là pour les aider, quoi.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
David Tissot, un athlète, un soldat de la cuisine qui pense déjà à la transmission et qu'on retrouvera donc dans quelques jours, le 23 à Reims, pour soutenir l'équipe de France, la Team France Bocuse d'Or, puisque c'est la sélection du candidat ou de la candidate qui remportera le droit d'aller représenter la France en finale. Allez, on se quitte une minute et on revient pour se parler un peu de chasse, c'est la saison.
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Et je vous le disais juste avant la pub, saison de la chasse, eh bien ça sent bon les mijotés, ça sent bon les plats de copains, ça sent bon les terrines. Et justement, à l'initiative du Chasseur français, magazine bien connu, se tenait à Montmartre un déjeuner de dégustation de terrines. Mais vous allez savoir de terrines de quoi il s'agit.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Patrick Revet, bonjour. Alors, quel est l'événement qui nous réunit aujourd'hui ici à la Bonne Franquette en pleine période de chasse ?
Eh bien, une exclusivité mondiale. Il n'y avait aucune occurrence dans tous les pays du monde. Il y a 2 ans, j'ai lancé un appel à nos lecteurs. On a quand même plus d'un million de lecteurs du Chasseur français. Et un appel à recettes de sangliers. Et on a reçu plus de 200 recettes sur papier. Des recettes allant des fois de 10 lignes, écrites sur un papier sopalin, à des recettes de 4 pages, voire 5 pages, avec des photos, pas à pas, étape par étape, comment préparer sa terrine. Il a fallu faire un choix sur 200 recettes, en éliminer 180, en retenir une vingtaine, et avec les cuisiniers de renom que sont Jean Sabine et Georges Roux, on a retenu 4 terrines sur le papier, et ces deux compères... complices dans la vie et en cuisine, ont travaillé avec les ingrédients fournis par René Pinel, célèbre charcutier d'Austin. Ils nous ont concocté 4 terrines qu'on a dégustées donc aujourd'hui avec toi en tant que président du jury.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de chance, parce que c'est vous, Patrick, qui vous êtes tapé la sélection sur dossier de toutes ces recettes.
Oh, ça m'a pas pris plus d'une demi-journée.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà un niveau sur le papier qui était très très disparate.
Oui, très disparate. On sentait que il y avait souvent des recettes héritées de la famille, transmises de génération en génération. Donc moi je vois très bien un cuisinier ou une cuisinière amateur ou amatrice en cuisine tout seul avec la recette que lui a transmise sa mère ou sa grand-mère. Il connaît par cœur les étapes, il connaît les ingrédients, il sait pas forcément comment doser, comment faire. À l'arrivée, il peut nous faire une belle terrine, mais qui, sur le papier, souvent n'était pas séduisante. Donc j'ai dû éliminer ce genre de recettes, par exemple. Ou alors des recettes trop sophistiquées, avec trop d'ingrédients. Et d'ailleurs, ça a été intéressant, c'était un point de débat entre les cuisiniers, notre charcutier et moi, c'était où est-ce qu'on met la barre du classicisme en matière de terrine. Est-ce qu'on part sur une recette basique de sanglier avec les ingrédients que tout le monde a chez soi ou avait chez soi à la campagne avant? Est-ce qu'on rajoute des produits de saison comme la châtaigne, les champignons? Est-ce qu'on met des produits exotiques? Pourquoi pas? Et on a pris le parti pris, c'est un choix, hein, et je pense qu'on va le refaire pour le deuxième championnat de France amateur de l'année prochaine qui aura lieu chez Alain Fontaine du Mesturet, président des maîtres restaurateurs de France. Là, on a éliminé toutes celles qui étaient trop exotiques. Il fallait qu'on reste sur de la viande basique. On s'est mis à la place du lecteur qui ramène chez lui un morceau de sanglier et qui va faire avec ce qu'il a autour de lui ou éventuellement faire appel à un éleveur pour ajouter forcément des morceaux de cochon classique. Et donc, sur cette base de classicisme, on s'est aperçu qu'après dégustation, quand même, les recettes sont très, très disparates.
Patrick Revet, avant de plonger dans les... un petit peu, mettre le nez un petit peu dans la terrine, hein, puisque quatre recettes ont donc été sélectionnées sur environ 200, c'est ce que vous me disiez. Comment se porte le chasseur français aujourd'hui? Parce que la chasse, elle est un petit peu mise à mal dans notre société actuelle. C'est un peu la lutte de la ville contre la campagne, des traditions contre de la modernité. Et comment va votre magazine?
Le magazine va très bien, il a entre guillemets, vraiment de gros guillemets, profité du Covid, à savoir que les gens, sans doute, au moment du confinement, en ont eu assez de regarder la télévision. Ils sont retournés vers la presse écrite, il y a eu un effet donc salutaire, mais pas seulement pour le magazine, pour l'ensemble de tous les magazines de France. Et on est reparti, après déconfinement, on est reparti vers des ventes normales. Nos valeurs, c'est vrai Vincent, sont mises à mal de plus en plus, comme par hasard juste avant les élections. Donc on encaisse, on a quand même un bon défenseur de la ruralité à la tête de la Fédération Nationale des Chasseurs qui s'appelle Willy Schran. C'est le premier à communiquer vraiment dans l'histoire de la communication de la chasse. Il faut qu'il y ait des gens comme ça et nous aussi, nous porte-parole la presse écrite, on défend nos valeurs, on met souvent en exergue les conflits entre ruraux et citadins qui souvent, la plupart du temps sont gagnés par les ruraux, mais là, pareil, la justice commence à reculer. Les cas de jurisprudence évoluent en faveur des citadins. Donc ça, c'est un vrai souci pour la campagne. Et parmi ces problèmes majeurs de terrain, les problèmes de voisinage, les conflits entre voisins, il y a aussi effectivement ces citoyens qui arrivent en télétravail où les villages s'agrandissent, ils rentrent dans les... dans les conseils municipaux, ensuite chez les parents d'élèves, et ils commencent à noyauter, à amener plus de culture, plus d'esprit citadin, ou effectivement le sentiment anti-chasse, l'esprit animaliste, comme nous on a du mal à le supporter, prend de plus en plus pied dans nos campagnes, c'est un vrai souci.
Et vous revendiquez le fait que le chasseur est avant tout un écologiste, quelqu'un en tout cas qui gère le patrimoine naturel et l'écologie de notre pays.
Mais on est les premiers utilisateurs de la nature, avec plus d'un million de gens qui passent leur permis de chasser, et 1,5 million qui ont leur permis de chasse, qui prennent pas forcément le timbre tous les ans. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut jamais oublier que le tir, c'est l'acte final. Il y a des chasseurs qui sortent, ils ne tirent pas, ça arrive souvent, plus souvent qu'on pense. Et lui, il est sentinelle de la nature, il est sentinelle de l'état des espèces, il signale des maladies, de ce qu'on appelle les zoocies. En contact avec les centres de sauvetage de la faune sauvage, et on observe, on fait des comptages, pas seulement d'espèces chassables, aussi d'espèces non chassables. Et si les chasseurs disparaissaient de la nature du jour au lendemain, on aurait vraiment un gros problème de gestion de terrain de la nature, mais de la vraie écologie au sens scientifique du mot et expérimental du mot sur le terrain.
Alors on revient à notre concours amateur de terrine de sanglier, ce championnat de France. Patrick, on a l'impression que vous avez compris, parce que vous êtes un gourmand, je vous connais, vous avez compris qu'il faut instiller dans l'esprit des gens que l'acte final de la chasse, en tout cas son but final, ce n'est pas le meurtre des animaux, mais plutôt d'avoir sur table, à un moment donné, le goût du gibier, le goût de la nature qui rentre au moment de la chasse dans tous les bons restaurants et les bonnes maisons.
Voilà, donc le mot meurtre déjà est à mettre de côté. On parle de prélèvement sur des populations qui sont en surnombre, je parle des sangliers, qui se réfugient de plus en plus autour des zones habitées où le droit de chasse ne s'exerce pas. Que faire de toute cette viande? On est quand même à presque 900 000 sangliers abattus chaque année.
Il y en a besoin, hein, parce que le sanglier est très nuisible à l'agriculture, hein, si on ne sait pas le contenir en quelque sorte.
Il est très nuisible à l'agriculture et il est très bon dans l'assiette bien préparée. Il faut rappeler et garder à l'esprit toujours que le gibier, c'est la viande la plus diététique qui soit, la moins grasse. Forcément, c'est un animal qui se déplace, qui court, donc pas de graisse. Les nutritionnistes le mettent en avant. Après, si vous bandez les yeux de quelqu'un, vous lui faites goûter 2-3 terrines où il y a du sanglier dedans, il est possible qu'il se lâche les babines, même s'il est anti-chasse.
Alors Alain Fontaine, vous faites, je dirais, figure de spécialiste, étant chef et restaurateur. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne terrine de sanglier ?
Alors une bonne terrine de sanglier, c'est de la matière, et la matière première, bien sûr, c'est le sanglier, mais c'est du gras. Il ne faut jamais oublier le gras, de la gorge, de la poitrine, de l'échine, bien évidemment.
Mais de cochon, hein, parce que le sanglier, il n'y a pas de gras.
On a du mal à avoir les abats de tous les gibiers, d'ailleurs. C'est la difficulté qu'on a. Donc, il faut des abats aussi. Alors, de temps en temps, bien sûr, c'est les abats de cochon le plus souvent. Sauf, bien entendu, si vous êtes vous-même chasseur et vous faites votre terrine de sanglier vous-même. Là, vous aurez les abats du sanglier. Quand vous êtes restaurateur, vous avez du mal à vous approvisionner en abats. Par contre, c'est du gras. Et là, on a goûté aujourd'hui, pendant ce concours, des terrines de sanglier qui un peu sèche, mais la gagnante effectivement a du gras. C'est une terrine de sanglier, on sent qu'il y a de la gorge, on sent qu'il y a des abats, on sent que il faut que ça soit onctueux, il faut pas qu'il y ait d'acidité en bouche, il faut que ça soit bien gras, que ça soit bien arrondi, et il faut sentir surtout le sanglier, parce que si vous avez une terrine qui sent plus le sel que le sanglier, ou plus les nitrites, mais c'était pas le cas aujourd'hui, plus les nitrites que le sanglier, ça va pas.
Et alors, quand on a un intitulé où on dit par exemple aux châtaignes, ou aux trompettes des morts, ou aux cèpes, ce qu'on veut, il faut qu'on sente le produit, et ce n'est pas juste un exhausteur.
En restauration, c'est ça. Quand vous marquez sur votre carte que c'est aux cèpes, que c'est aux trompettes des morts, que c'est ceci, cela, il faut que ça se sente. Une châtaigne, ça a le goût de châtaigne. Alors après, ça peut se marier avec le sanglier, mais en bouche, vous devez avoir le goût du sanglier et le goût de la châtaigne. Pas obligatoirement dissocié d'ailleurs, mais le mariage, vous devez le sentir. Les cèpes, c'est pareil, c'est les champignons avec des goûts puissants. Ils ne doivent pas, bien sûr, couvrir le goût d'un sanglier, par exemple, mais d'un lièvre ou autre, mais ils doivent être présents et donner du goût aussi au lièvre. Vous devez avoir au lièvre ou au sanglier, vous devez avoir les deux. Voilà. C'est pas des éléments chimiques. Quand vous prenez un cep, c'est pas pour donner un petit côté de chimie à votre production. C'est vraiment pour donner le goût de cep. Et c'est ce qui manque d'ailleurs, même chez nous, on a beaucoup à apprendre des ménagères et des hommes qui font la cuisine chez eux. Parce que souvent dans les restaurants, on a des cartes qui ont des magnifiques appellations. Et à la sortie, il vous manque en fin de compte la moitié du produit qui a été annoncé sur la carte.
Vous avez pris plaisir à goûter les terrines aujourd'hui ?
Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que la chasse c'est important dans mon restaurant, bien entendu j'en fais, et puis je trouve qu'aujourd'hui on n'ose pas. La chasse c'est effectivement une cuisine particulière, et moi je souhaiterais que les cuisiniers reprennent le chemin de la chasse en termes de cuisine. Tous les cuisiniers ne sont pas chasseurs, pour autant on doit être tous capables de faire de la chasse, parce que la chasse c'est la saison, on a envie d'en manger. Moi je vois très bien qu'on s'arrête en janvier, et heureusement qu'on s'arrête, parce qu'à partir du mois de janvier plus personne ne nous demande des plats de chasse, c'est terminé. Donc si vous voulez, on a vraiment cette envie, ça fait partie de notre mémoire collective depuis qu'on est petit, de manger de la chasse à une certaine période. Et je crois qu'en ce moment, dans les cuisines, dans les restaurants français, la chasse manque vraiment à l'appel. Il faut reprendre ça. Alors après, il y a toute l'actualité sur le pourquoi, le comment de la chasse, mais ça ne nous regarde pas, nous cuisiniers. Nous cuisiniers, c'est de transmettre ces traditions qu'on a autour de la chasse, parce qu'il y a des gens qui sont demandeurs.
Et puis c'est peut-être le moyen, au Mesturet, qui est un restaurant citadin, de faire un peu rentrer la forêt en ville.
Alors c'est important, mais les citadins justement réapprennent la campagne. Alors Paris est une ville faite de plein de gens qui viennent de la campagne, et dans la campagne vous aviez toujours une grand-mère, un père, un cousin qui chassait et qui ramenait le cuisseau de chevreuil, le lièvre, le ceci, le cela. Et donc tous ces gens qui habitent Paris aujourd'hui, la plupart ont goûté par leur grand-mère ou des fois par leur mère ou leur père des produits de la chasse. Et donc les retrouver dans un restaurant, c'est important. On a eu par le passé des grands restaurants de chasse à Paris. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins et il faut oser la chasse. Il faut oser récupérer un lièvre entier, lui faire ce qu'on appelle son pyjama, retirer la peau et tout ça. Utiliser les abats du lièvre parce que ça, on arrive à les avoir. Faire des sauces avec les abats. Il faut oser la chasse. Et moi, quand j'ai démarré ma carrière, quand on faisait de la chasse, ça sentait la chasse en cuisine. Ça sentait fort. Alors, c'est vrai que la chasse était un peu plus faisandée qu'elle l'est aujourd'hui.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Tant mieux, parce qu'on l'aime pas trop faisandé, surtout le sanglier. À propos, résultat de ce concours amateur de terrine de sanglier, bien début janvier, à la sortie du chasseur français. J'espère que vous ne jugez pas les chasseurs tous des affreux joujoux. On peut être chasseur responsable, chasseur et respectueux, et on peut, même si on ne chasse pas, et c'est mon cas, aimer quand même le produit de la chasse. En ce moment, il y a du beau lièvre à la royale au restaurant. Voilà mes amis, après les informations, vous retrouverez Alexandre Devecchio et son émission politique, évidemment d'interview. Et puis à la suite de cela, Nathalie Schrengirma qui met toujours le Made in France en avant. On se quitte et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à 10h du matin, pour faire le marché ensemble. Croyez-moi, l'actualité de tout ce qui se mange sera encore fort chargée. D'ici là, on est bien sur Sud Radio. Bonne journée.